VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg et Eric Manirakiza avec vous pour cette édition du mardi 13 octobre 2015. Au sommaire ce soir.
En Guinée, la mouvance présidentielle se réjouit du déroulement du scrutin de dimanche.
Les conclusions, en tout cas, sont très très sereines, donnent des pistes sérieuses et des indications qui peuvent permettre au NU de poursuivre tranquillement son travail.
Au Burkina Faso, les élections auront bien lieu en 2015, a assuré le président Michel Kafando. Et toujours au Burkina, les résultats de l'autopsie du corps présumé du président Thomas Sankara sont connus.
Ici aux États-Unis, première confrontation télévisée ce soir à Las Vegas entre les prétendants à la nomination du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre 2016.
Et comme tous les jours, nous aurons le reportage de notre envoyé spécial Nicolas Pinault sur les migrants qui arrivent en Europe.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, les élections générales auront bel et bien lieu en 2015. C'est ce que vient de déclarer à l'instant même le président de la transition, Michel Kafando. Bakassi Koura, vous êtes sur place. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre avec les signataires de la charte de transition ?
Oui, les élections auront bien lieu en 2015. Hein, on sait exactement la date. Ce sera le 29 novembre 2015, puisque la réunion vient de se terminer ici. C'était une rencontre entre le président Michel Kafando, le président de la transition, et les représentants de toutes ces composantes qui étaient en novembre dernier pour mettre en place cette transition de 12 mois. Ces organisations, on les appelle les signataires de la charte de la transition. Et donc, aujourd'hui, on connaît bien une date. Ce sera le 29 novembre 2015. Et c'est cette date qui a été annoncée à l'instant même par le président Michel Kafando et aussi certains des participants. Vous savez que le Burkina Faso a mis en place cette transition en novembre dernier, après la chute de Blaise Compaoré. Et les élections devraient avoir lieu dimanche passé, le 11 octobre. Et elles n'ont pas eu lieu. Donc ce soir, Michel Kafando a rencontré ses signataires de la charte pour, dit-il, au départ, échanger en vue d'arrêter un chronogramme. Eh bien, on le sait, comme je le disais, ce sera le 29 novembre. Et donc, les Burkinabés, ce soir, sont situés sur la date des élections générales, c'est-à-dire législatives et présidentielles.
Bakassi Koura, envoyé spécial de VOA Afrique au Burkina Faso.
En Guinée, la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle de dimanche dernier a appelé les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats attendus, bien sûr. Plus de détails avec Timothée Donangmaï.
Lors d'une conférence de presse ce mardi à Conakry, le chef de la mission, Frank Engel, a également critiqué le manque de préparation de la commission électorale. Lundi, les sept adversaires du président sortant, Alpha Condé, ont réclamé l'annulation du premier tour, jugeant le scrutin entaché de fraude. Le leader de l'opposition guinéenne, Selou Dalaï Diallo, a déclaré qu'il mobiliserait ses partisans pour se faire entendre. « On n'a pas de recours, la justice est inféodée », a-t-il lancé. Le taux de participation au premier tour a été estimé à 60% par les observateurs européens qui ont déploré les problèmes d'organisation de la CENI. Le chef de la mission, Frank Engel, a regretté que la commission électorale n'ait pas suivi tous les conseils qui lui avaient été donnés sur le scrutin. M. Engel s'est cependant félicité de l'absence de violence et de boycott le jour du premier tour, estimant que de ce point de vue, le scrutin du 11 octobre a été exemplaire pour le pays. Les premiers résultats ne seront pas connus avant ce soir ou mercredi. Pour les annoncer, la commission électorale guinéenne dispose de 72 heures à partir de la réception du dernier procès-verbal des quelques 14 000 bureaux de vote du pays.
En République démocratique du Congo, 6 civils ont été tués hier dans 3 attaques distinctes attribuées à des rebelles ougandais près de Beni. Les attaques ont eu lieu à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Jean-Roger Bion.
Les trois attaques se sont succédées lundi dans l'après-midi à Tenembo, Moukoko et à Linzo-Sinsen. L'administrateur du territoire de Beni, Missi Kalonda, a indiqué à l'AFP que toutes les victimes avaient été tuées par armes à feu et qu'un militaire avait été blessé. Au total, les attaques ont fait 6 morts selon l'administrateur. M. Kalonda a en outre accusé les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées ADF d'être responsables de ces nouveaux meurtres. Le porte-parole de l'armée dans la région a confirmé les attaques sans être en mesure de donner un bilan, mais a accusé lui aussi les ADF d'en avoir été à l'origine. Le Nord Kivu est déchiré depuis plus de 20 ans par des conflits armés alimentés par des différents ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières de la région et des rivalités entre puissances régionales.
Jean-Roger Bignon, au Mali, au moins 6 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la région de Tombouctou dans une embuscade attribuée à des islamistes. Une information confirmée à l'AFP par des sources de sécurité maliennes. Le 9 octobre dernier, 3 civils avaient été tués dans la région de Mopti dans une attaque attribuée également à des islamistes.
Le groupe islamiste Boko Haram utilise des sous-munitions de bombes à fragmentation provenant de stocks de l'armée nigériane pour commettre des attentats. C'est la révélation aujourd'hui de l'organisation Cluster Munition Coalition, la CMC. Selon cette organisation qui milite pour l'éradication de ces armes destructrices et interdites, des photographies postées sur le compte Twitter du quartier général de la défense nigérian, les sous-munitions retrouvées par l'armée proviennent de bombes BLG-66 de fabrication française.
Et au Burundi, une famille vient d'être décimée. C'est une famille d'un caméraman qui travaille pour la télévision nationale. Il a été tué avec sa femme et ses 2 enfants. C'est à Ngagara, dans le quartier nord de la capitale Bujumbura.
Et puis pour finir sur ces brèves africaines, le collectif d'associations européennes et africaines Tournons la page a dénoncé aujourd'hui dans une lettre ouverte à François Hollande le silence de la France face au référendum constitutionnel annoncé par le président congolais, le qualifiant de coup d'État constitutionnel.
L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, la favorite avec 40%.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, ici aux États-Unis, l'événement sur le plan politique, c'est le premier des 6 débats télévisés des candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2016, ce soir à Las Vegas. Idrissa Seydou Dia pour les détails.
L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, la favorite avec 40%, affrontera ses 4 adversaires, dont le surprenant sénateur Bernie Sanders, un socialiste crédité de 25%, qui semble galvaniser la base démocrate. Quant aux 3 autres candidats, l'ancien sénateur Jim Webb, l'ex-gouverneur du Maryland Martin O'Malley et l'ancien sénateur du Rhode Island Lincoln Chafee, qui plafonne à moins de 1%, ce sera l'occasion d'essayer de percer avec une bonne performance. À la différence des républicains dont la campagne est marquée par les attaques ad hominem du favori Donald Trump, les candidats démocrates préfèrent plutôt mettre l'accent sur leurs positions et qualifications respectives. L'ombre du vice-président Joe Biden va cependant planer sur ce débat de Las Vegas. Selon un nouveau sondage Reuters Ipsos, publié lundi, 48% des démocrates seraient favorables à son éventuelle candidature. La controverse sur la messagerie privée de Mme Clinton y est certainement pour quelque chose. Mais si M. Biden décidait de se joindre à la course, lit-on dans le même sondage, il ne recueillerait que 17% des intentions de vote et ne serait qu'en 3e position derrière Mme Clinton et M. Sanders.
Merci Idrissa. Les violences entre Israéliens et Palestiniens ont franchi un nouveau palier. Aujourd'hui mardi, 3 Israéliens ont été tués dans 2 attentats à Jérusalem au cours de la journée la plus meurtrière d'une escalade que personne ne semble plus pouvoir arrêter. La tension demeurait vive en Cisjordanie occupée où les Palestiniens étaient appelés à un jour de colère et où de nouveaux affrontements ont opposé des centaines de jeunes lanceurs de pierres aux soldats israéliens de Beit El près de Ramallah, à Qalandia et à Bethléem.
Et le premier ministre ukrainien Arsène Yatsenyuk a accusé aujourd'hui mardi des services secrets russes d'avoir abattu en juillet 2014 le Boeing 777 du vol MH17 de Malaysia Airlines assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur.
Le président russe Vladimir Poutine, un allié du régime de Bachar el-Assad, a vertement critiqué les États-Unis d'avoir parachuté des munitions à des rebelles syriens. La Russie a mené cette dernière 24 heures un nombre record de frappes contre les rebelles depuis le début de son intervention dans le conflit. Dans un enregistrement audio lundi soir, le chef d'Al-Nusra a prédit une défaite russe. La guerre en Syrie va faire oublier aux Russes les horreurs qu'ils ont subies en Afghanistan. Il a juré de les briser au seuil de la Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et sur voaafrique.com. Et maintenant, l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Georges Ebion.
En Algérie, des ennuis pour Issad Rebrab, le patron du premier groupe privé d'Algérie qui pèse 3 milliards de dollars. L'homme d'affaires a essuyé récemment une violente attaque du ministre de l'Industrie qui l'accuse d'avoir voulu importer de vieux équipements surfacturés. Actuellement à l'étranger, M. Rebrab s'estime la cible d'autorité qu'il ne se prive pas de critiquer. Il reproche au gouvernement de bloquer les projets de son groupe et de priver les Algériens de milliers d'emplois potentiels. La FAO, dans son rapport sur la pauvreté présenté aujourd'hui à Rome, estime que promouvoir les programmes de protection sociale au bénéfice des femmes contribue à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les zones les plus touchées. L'organisation onusienne basée à Rome note ainsi que ceux visant les femmes ont un impact plus fort en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, un décalage qui tient au fait que les femmes et les hommes ne font pas le même usage des aides. Au total, environ 795 millions de personnes continuent à souffrir de la faim dans le monde et près d'un milliard de personnes vivent en situation d'extrême pauvreté, pour la plupart dans les zones rurales, souligne la FAO dans ce rapport annuel. Et l'heure de la renaissance a sonné pour l'entreprise ferroviaire publique au Bénin, ses vieux wagons et son chômage technique. Demain mercredi, le rail béninois passe sous contrôle public-privé sous l'impulsion du groupe français Bolloré qui ambitionne de relier Cotonou, Niamey et Abidjan.
C'était la Minute Éco. Merci Jean-Roger.
Regard sur les stades, c'est l'espoir avec Tim. Tim, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Éliminatoire de l'Euro 2016, c'est la qualification de la Russie et la Slovaquie hier. On connaît désormais 18 pays, y compris la France, hôte sur les 24 pays qui disputeront la phase finale.
Et oui Eric, et ce soir, les Pays-Bas qui sont au bord de l'élimination doivent s'imposer à Amsterdam contre la République tchèque, déjà qualifiée pour pouvoir accéder au barrage. Et ce n'est pas tout, Eric. Les Néerlandais devront aussi prier pour que la Turquie soit vaincue à domicile par l'Islande, elle aussi déjà qualifiée. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que le meilleur troisième des neuf groupes compris, se qualifient. Les autres deuxièmes et se disputeront les quatre derniers billets en barrage au mois de novembre.
Une autre surprise, Tim, Cristiano Ronaldo, de nouveau soulier d'or. Mais il dit en vouloir toujours plus.
Et oui, de son quatrième titre de meilleur buteur des championnats européens au titre de la saison 2014-2015, la star du Real Madrid a dit « C'est un moment spécial ». Toutefois, il ne tient pas à dormir sur ses lauriers. « Je veux le cinquième et le sixième, si c'est possible », a-t-il fait savoir. Pichichi de la Liga avait 48 buts la saison écoulée. Ronaldo avait déjà été soulier d'or en 2008. 2011 et 2014 au palmarès du Ballon d'Or qui lui récompense le meilleur joueur de l'année en Europe. L'Argentin Lionel Messi est devant le Portugais avec 4 trophées contre 3.
Et en mode boxe, Team, avec la ville allemande de Hambourg qui a été désignée pour organiser les Mondiaux 2017.
Et oui, Eric, l'annonce a été faite par la Fédération internationale de boxe amateur ce mardi à Doha. C'était à l'issue de son comité exécutif tenu en marge des Mondiaux 2015, la ville hanséatique est également candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'été 2024.
Merci Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg et Eric Manirakiza en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la Guinée.
Oui, Claire, en Guinée, la mouvance présidentielle se réjouit du bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre. Mardi soir, les sept adversaires du président sortant, Alpha Condé, ont demandé l'annulation du scrutin pour des raisons d'irrégularité et de fraude massive. Mais le camp présidentiel a déclaré que ces dysfonctionnements à caractère technique n'entachent en rien la validité du scrutin. Le reportage est signé Zakaria Kamara.
Le directeur de campagne du président sortant, Alpha Condé, a rappelé la forte participation au scrutin. Une preuve a dit Kassori Fofana que le peuple guinéen est uni.
La mouvance présidentielle se réjouit du bon déroulement de l'élection du 11 octobre 2015. L'importante mobilisation des citoyens illustre la maturité du peuple guinéen et son attachement aux principes et valeurs démocratiques. Il prouve aussi la détermination du peuple guinéen à préserver l'unité nationale et son engagement patriotique à construire un État digne de ce nom.
Sans vouloir engager de polémique avec les sept autres candidats qui disent ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle, pour des raisons d'anomalie, Kassori Fofana a affirmé à la presse que les votes sont valides malgré les dysfonctionnements.
Les dysfonctionnements à caractère technique qui ont émaillé partiellement le processus électoral n'entachent en rien la validité du scrutin qu'exprime pleinement la volonté du peuple.
De son côté, le porte-parole du gouvernement se dit ne pas être surpris de la réaction de l'opposition, Albert Damantin Camara.
Ce n'est pas surprenant puisque l'opposition nous a maintenant habitués depuis 4 ans à contester systématiquement tous les scrutins et à mettre de côté nos institutions et nos lois. Nous sommes tous responsables de la construction de notre démocratie. Il est dommage que ceux qui se disent républicains passent outre et souhaitent des voies aléatoires et hasardeuses pour conquérir le pouvoir. En tout cas, il n'est pas question pour le gouvernement de céder au chantage de la violence parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit.
La Commission électorale nationale indépendante n'a donné aucune date de la publication des résultats provisoires. Lundi, le ministre de l'Intérieur a dit qu'une enquête est ouverte après que des coups de feu aient été entendus en direction de la salle où se tenaient les opérations de centralisation. Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Direction le Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons a livré les résultats de l'autopsie. Mais le rapport sur le test ADN n'est pas encore disponible. Les restes recensés sont essentiellement les ossements, les pièces d'identité, les cartes militaires et les morceaux de tissu retrouvés dans les tombes. La partie civile salue les conclusions de l'enquête qu'elle juge très sereine pour mener à des pistes sérieuses et des indications permettant au juge de poursuivre tranquillement son travail. VOA Afrique a joint à Ouagadougou, maître Bendewende Sangara.
Pour les impacts, il a été relevé des orifices, par exemple sur les restes qui correspondent à des impacts sur la poitrine du président Sankara, des impacts sur ses jambes, sur ses bras. Moi, j'en ai recensé environ une dizaine, hein, même plus. Cela conclut à dire, au regard du rapport balistique, que le 15 octobre, le carnage, la boucherie a été faite par des armes militaires comme des G3, des Kalachnikovs, des pistolets mitraillettes et même peut-être des grenades ont été utilisés au regard des projectiles qui ont été retrouvés dans ces restes et que le rapport balistique certifie que ce sont des balles. Il y a même des balles françaises qui ont pu être identifiées.
C'est bien identifié qu'il s'agit des restes du président Sankara Est-ce que ça va aider à découvrir la vérité sur son assassinat?
Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et déjà à ce stade, je dois vous avouer que les inculpations ou les interpellations, plus bien sûr ces identifications, donnent au juge la possibilité de continuer sereinement son travail. Peut-être qu'il y aura d'autres inculpations, des confrontations même pourront se faire, mais toujours est-il que le juge est dans la bonne direction.
Quelle est la suite à réserver à ce rapport par la partie civile et qui sont les inculpés jusque-là?
Nous avons 15 jours pour faire nos observations entre les mains du juge. Et nous avons aussi la possibilité de demander une contre-expertise hein, si on n'est pas d'accord avec les résultats qui nous ont été livrés. Mais je précise que les inculpations, j'en ai dénombré, je crois, 8 ou 9 les personnes qui sont déjà inculpées. 4 seraient déjà en détention. Il y en a qui sont inculpés mais qui ne sont pas encore détenus. Dans l'un ou l'autre des cas de figure, c'est le début de la procédure. Et moi, je pense qu'il y a des fortes pistes crédibles.
Venir.
Maître Benewende Sankara, avocat de la partie civile.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Direction la Sicile pour un nouveau numéro de notre série consacrée aux migrants africains en Europe. L'île italienne reçoit quotidiennement des centaines de rescapés recueillis par les bateaux de patrouille européens. L'envoyé spécial de VOA Afrique, Nicolas Pinault, nous explique aujourd'hui les différentes routes empruntées par les migrants en Afrique.
Au 9 octobre 2015, selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, 3092 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, dont 2803 vers l'Italie. Cela en fait la portion la plus meurtrière de cette mer qui sépare le vieux continent de l'Afrique. Selon Federico Soda, coordinateur de l'OIM pour la Méditerranée à Rome, environ 90% des personnes qui arrivent par la mer en Italie partent de Libye.
Je crois qu'en Libye, le trafic est assez bien organisé pour pouvoir faire passer, venir autant de gens et les faire prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée. Et ça génère beaucoup d'argent puisque la traversée peut coûter plusieurs milliers de dollars.
Après avoir rencontré sur le terrain des migrants, des humanitaires et différents employés d'agences européennes, VOA Afrique a pu déterminer les deux corridors migratoires qu'empruntent les migrants africains dans leur quête de l'Europe. Une route ouest-africaine partant du Sénégal, de la Gambie ou du Nigeria. Les candidats au voyage rallient ensuite Bamako, Gao, Niamey puis Agadez. Ils traversent ensuite la frontière libyenne et peuvent mettre des semaines avant de rejoindre Tripoli pour embarquer sur des bateaux à destination de la Sicile. Samatunkara est un Malien de 23 ans. Il est arrivé il y a quelques semaines en Italie. Il nous dévoile son itinéraire.
Moi, j'ai quitté Bamako lundi le 13 octobre 2014 pour venir à Gao. J'ai quitté Gao maintenant, venir en Algérie. Le premier ville, Borj, on a fait Borj. Après Borj, on a passé Tamarassat. On n'a pas arrêté là-bas. Bon, on a fait 5 mois à Gardaïa. On a quitté Gardaïa pour venir à Libye, en Tripoli.
L'autre route migratoire part d'Asmara ou Addis Abeba. Ceux qui réussissent à passer la frontière soudanaise remontent jusqu'à Khartoum. Ils prennent alors la route périlleuse du Sahara via le Tchad ou l'Égypte pour gagner ensuite le désert libyen. Tripoli est là aussi la destination finale avant de s'entasser par centaines dans des embarcations pour traverser la Méditerranée. Depuis la Sicile en Italie, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur deux sujets d'actualité. Dans la première partie, nous aborderons l'après-premier tour de l'élection présidentielle en Guinée, où la tension monte. Et dans la seconde, la crise des migrants en Europe. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Dernière escale au Togo, aujourd'hui pour notre page magazine. Les candidatures pour le programme Mandela Washington Fellowship 2016 sont ouvertes depuis quelques jours. Les anciens bénéficiaires de YALI, le Young African Leader Initiative au Togo, ainsi d'autres jeunes à faire acte de candidature. Le samedi 10 octobre dernier, à l'American Corner de l'Université de Lomé, les YALI 2015 ont partagé leurs expériences américaines. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
L'heure était à la restitution pour les six Togolais bénéficiaires du programme Young African Leaders Initiative. Les Mandela Washington Fellows ont eu un moment de partage avec d'autres jeunes Togolais. Des cours magistraux dans les universités américaines, des visites d'entreprises et des activités communautaires ont marqué le séjour de ces YALI.
Les six semaines ont été des cours très techniques et également des moments de rencontre avec des individus dont l'inspiration vous change, vous montre une autre perspective de la vie.
Chaque mercredi, après le cours, on doit se rendre en un lieu pour aider les gens. On collecte les aliments et vont dans les coins reculés où les gens sont pauvres, ne trouvent pas à manger, ils essaient de les distribuer. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a les pauvres. Même aux États-Unis, il y en a.
Une centaine de jeunes ont suivi religieusement les différentes présentations et est sorti emballé de la séance. C'est le cas de Rihanna Touré.
C'est un programme fabuleux. J'ai vraiment aimé la manière dont ils ont transmis ce qu'ils ont ressenti. Et je pense que la jeunesse togolaise a besoin de ça. Ça leur a permis de voir le monde d'une autre façon, d'être plus engagés dans la société. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Je suis confiante. Je vais postuler, je vais tenter ma chance.
Pour Joël Nsougan Ameyou, YALI 2015, le plus important n'est pas d'avoir de grands diplômes, mais plutôt d'avoir une vision.
Le YALI ne fait pas de vous ce que vous n'êtes pas. Le YALI vous donne l'opportunité d'accomplir ce que vous voulez être. Vous avez besoin d'avoir une vision. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Ce que le programme fait, c'est de vous exposer en fait à toutes les opportunités qui sont disponibles dans votre secteur.
C'est cette conviction que les six représentants du Togo ont transmis à leur père. Docteur Eli Abbé est un jeune médecin.
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec cette jeunesse qui commence à prendre conscience, on va réaliser plein de bonnes choses dans les décennies qui viennent, quoi. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir encourager ceux-là qui vont demain être des exemples pour les autres. C'est des jeunes pleins de projets, pleins de vision qui sont allés se perfectionner.
Cette séance a également permis aux YALI togolais de faire une mise au point. Nadège Afoutou, YALI 2015.
Quand nous étions aux États-Unis, un Togolais a fait circuler des informations selon lesquelles nous sommes allés pour faire de nous des apôtres de l'homosexualité en Afrique et au Togo notamment. Ce n'est pas qu'on est allé pour revenir être des apôtres de l'homosexualité ou de la prostitution ou de quoi, je ne sais encore, de l'impérialisme américain en Afrique. On est allé parce qu'on a un certain mérite et quelqu'un a bien voulu investir en nous ce que notre État ne fait pas encore.
Pour l'édition 2016 de ce programme, l'ambassade des États-Unis au Togo recherche certains profils particuliers. David Méron, directeur des affaires publiques de l'ambassade.
Encouragez vos sœurs, vos amis à postuler pour le programme parce qu'on va encourager le maximum possible de femmes de participer.
Les jeunes désireux de bénéficier du programme Mandela Washington Fellowship ont jusqu'au 11 novembre pour postuler. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. On remercie Yemi et Souleymane. À la présentation, c'était Claire Morin-Gibour et Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Retrouvez-nous sur notre site internet.